Europe 1.
Valérie Benaïm, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes journaliste, animatrice de radio et de télévision, chroniqueuse sur Touche pas à mon poste et vous publiez chez Fayard « Il n'est pas celui que vous croyez », c'est sur ces femmes qui tombent amoureuses de tueurs en série. C'est ce qu'on appelle le libristophilie ou le syndrome de Bonnie and Clyde. Hein.
Exactement, c'est un syndrome essentiellement féminin et c'est une inclinaison de certaines femmes qui vont avoir des élans amoureux voire sexuels pour des hommes qui ont du sang sur les mains.
Et qui sont en prison. Ce qui a attiré votre attention sur ce sujet, c'est le cas de Nordal Lelandais. Il y avait une lycéenne de 17 ans qui lui écrivait sur Facebook et une quinquagénaire qui lui rendait visite en prison, d'où vous avez fini par obtenir le témoignage d'ailleurs.
Exactement. En fait, j'étais en train de travailler à ma table de travail à la maison et j'ai toujours, moi, une sorte de réminiscence de mes années dans les rédactions. Il me faut un bruit de fond. Et donc, j'ai toujours la télé allumée sur les chaînes info. Et il se trouve que je ne sais quelle partie de mon cerveau a été attirée par une information plus qu'une autre. Et en l'occurrence, cette information, c'était l'irruption dans le dossier, en marge du dossier Nordal Lelandais, d'une femme. Une femme qui aurait, à l'époque, on utilisait le conditionnel parce qu'on n'était pas sûr de toutes les informations, qui aurait passé de la drogue, de l'alcool et des téléphones portables à Nordal Lelandais et on supposait une relation amoureuse. Et là, j'ai tout arrêté et je me suis penchée sur cette affaire.
Mais vous avez réalisé que c'était pas le seul. Hein. Anders Breivik, qui a tué 77 jeunes gens et en a blessé 150 autres en Norvège en 2011, ou Marc Dutroux, condamné pour assassinat, séquestration et viol sur mineurs en Belgique en 2004, ils reçoivent tous les deux un courrier sentimental abondant.
Oui, Anders Breivik, c'est 800 lettres par mois. C'est absolument dingue. Et des lettres énamourées. Alors, il y a un peu de tout dans les lettres. Hein. Il y a ce que j'appelle vraiment de la lettre, un peu de la dame patronesse. Charité chrétienne, on tend la main, on veut dire qu'on est là, on a envie de tendre la main pour une forme d'accompagnement vers la rédemption. Et puis, il y a du courrier réellement amoureux de femmes qui sont amoureuses éperdues de ces hommes.
Et même Lucas Magnotta, le dépeceur de Montréal, comme on l'appelle, qui est ouvertement homosexuel. Il a travaillé comme escorte et comme acteur dans le porno gay. Et il s'est marié, en plus, avec un autre détenu depuis qu'il est en prison pour meurtre et pour avoir mutilé le cadavre de sa victime. Eh bien, son fan club, dites-vous, est composé très majoritairement de femmes qui lui écrivent elle aussi, des messages amoureux.
Absolument. Et effectivement, il est ouvertement homosexuel, vous l'avez dit, mais peu importe. Et lorsqu'on va un petit peu sur les forums, parce qu'elles ont créé des blogs, elles ont créé des forums, Lucas Forever, et Lucas I Love You, et quand on regarde un petit peu ce qu'elles disent, tu es trop beau pour être un tueur, moi je saurais m'occuper de toi, Lucas je t'aime, etc. etc. Ce qui est, quand j'ai démarré cette enquête, les bras m'en sont tombés parce que c'est comme si l'horreur du crime n'existait pas, qu'elle était mise sous le tapis et que à la fois elle magnifiait l'homme dans une forme de virilisme un peu étrange et en même temps on le mettait à distance.
Il y a même des sites de rencontres spécialisés aux États-Unis, dites-vous. Oui. Est-ce que vous êtes inscrite pour votre enquête?
Non, j'ai pas eu besoin de m'inscrire parce qu'alors on peut y aller, c'est en libre accès. Hein. Les auditeurs d'Europe 1 peuvent tenter le coup. C'était très surprenant. En France, évidemment, c'est extrêmement encadré. Aux États-Unis, il y a des sites de rencontres. Alors le prisonnier inscrit s'il le souhaite ou pas. Ce qu'il a fait, ce qu'il a commis. En revanche, le nombre d'années, ou même s'il est dans le couloir de la mort. Et puis, c'est desiderata. Je souhaite alors dialoguer avec une femme pour une relation simplement épistolaire ou pour une relation amoureuse. Et je préfère une grande, une brune, une petite, une jeune, une vieille. Enfin voilà, c'est assez surprenant. Et les jeunes femmes qui se pluguent là-dessus sont nombreuses.
Valérie Benaïm, vous avez donc fini par rencontrer cette quinquagénaire qui est devenue la compagne de Nordal Lelandais. Vous êtes penchée sur le cas de femmes qui ont succombé au tueur en série Patrice Allègre. Vous vouliez comprendre. Qu'est-ce que vous avez compris?
J'ai compris que ces femmes dont la société met à distance en disant qu'elles sont cintrées, qu'elles sont dingues, parce que c'est une commodité, parce que c'est facile et qu'on les met dans un coin et qu'on n'en parle plus. Mais j'ai compris qu'elles étaient plus proches de moi que je ne l'imaginais, plus proches de nous, les femmes, que je ne l'imaginais, parce qu'elles sont traversées par des choses qui, à certains endroits, moi, me semblaient totalement ubuesques, mais à d'autres, me faisait dire, mais moi aussi, je peux comprendre ça, je peux succomber à ça, je peux être traversée par le même sentiment.
Oui, parce qu'il y a une phrase qui revient, dites-vous, il n'est pas celui que vous croyez. C'est d'ailleurs le titre de votre livre, hein. Vous ne le connaissez pas comme je le connais. Ça, c'est un sentiment qui peut vous traverser. Vous
totalement, et je pense que moi, ça m'a ouvert une réflexion sur le désir féminin. J'étais partie pour une enquête journalistique sur police-justice, on va dire. Et puis, je me suis retrouvée à travailler sur le désir féminin. Parce qu'en fait, ce que ça révèle, c'est quelque chose de l'ordre du désir féminin, qui est un désir sublimateur, qui est un désir tellement puissant que les femmes, nous toutes, alors à des degrés plus ou moins divers, mais nous toutes, on est traversées par cette idée et par ce désir qui est que notre amour va pouvoir transformer l'autre, transformer le plomb en or. On va pouvoir, nous, par la force de notre amour, transformer et mettre en impression notre image sur celle que la société a de l'auteur des crimes.
Il y a un autre aspect que j'ai trouvé très intéressant dans votre livre. Vous dites qu'une femme qui entretient une relation avec un détenu est complètement maître du jeu. Elle n'est pas du tout sous emprise, comme le pensent un certain nombre de magistrats. Vous êtes devenue l'antienne. Hein. Elle était sous emprise, elle est sous emprise, nanana. Bon, tu parles. Une femme qui entretient une relation amoureuse avec un détenu, elle est complètement maître du jeu parce qu'il ne peut pas sortir.
Voilà. Alors, effectivement, non, mais il y a un pas de deux. C'est-à-dire que c'est un pas de deux. Alors, effectivement, une fois que ce pas est initié par la femme, son amour et son désir va pouvoir être éventuellement manipulé par l'autre, bien sûr. Mais ce n'est jamais ou tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que, effectivement, et là, pour le coup, je me place du côté notamment des avocats, de ces hommes qui vous disent, mais attendez, moi je veux bien que ces femmes soient sous emprise, mais malgré tout, leur action est limitée. Ils sont entre quatre murs d'une prison, ils n'ont pas de réel pouvoir sur elles, elles y vont de leur plein gré.
Si elles ne veulent plus y aller, elles y vont plus.
Si elles décident d'arrêter et la correspondance ou les visites, elles arrêtent du jour au lendemain la correspondance et les visites, et ils n'ont pas de pouvoir de pression sur elles. Donc, mais après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas donné toutes les couleurs du tableau. Parce qu'effectivement, quand on rentre dans un pas de deux, eh bien, se joue aussi quelque chose de l'ordre du psychologique avec ces hommes-là, qui n'ont peut-être même pas besoin d'être dehors pour exercer une certaine emprise sur ces femmes. Donc, voilà,
mais c'est une emprise amoureuse, sentimentale.
C'est une emprise amoureuse, voilà. Mais comme dans un couple, j'allais dire.
Exactement.
Comme dans un couple. Voilà.
C'est là où il faut relativiser le terme emprise, qui est devenu, qu'on nous sert aujourd'hui à toutes les sauces. Alors, c'est typiquement féminin, hein, quand même. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas d'hommes qui, en masse, écrivent à des femmes en prison.
Alors, à la marge, il y a bien sûr des hommes qui peuvent écrire à quelques femmes en prison, mais ce n'est pas un phénomène massif. L'inverse, en revanche, pour les femmes. Les femmes, massivement, vont écrire à des prisonniers. Alors, d'abord, ça peut être des militantes, hein, abolitionnistes, par exemple, pour les États-Unis, ou des femmes qui décident de travailler dans de l'associatif pour aider, pour tendre la main, encore une fois, et pour offrir une seconde chance. Mais oui, effectivement, c'est un phénomène féminin. Les hommes, alors j'ai interrogé certains psychiatres qui me disent, parce que je ne comprenais pas pourquoi un phénomène absolument féminin et pas masculin ou à la marge. Eh bien, il semblerait que c'est parce que vous, messieurs, vous soyez trouillards.
C'est très possible.
Et que finalement, les femmes qui ont du sang sur les mains, c'est castrateur. Et par ailleurs, il y a quelque chose, je pense, aussi de l'ordre de l'image que l'on colle à la femme. La femme, c'est la Madone. La femme, elle donne la vie. La femme, c'est la pureté.
Il y a l'inverse aussi, vous savez bien, c'est une dichotomie.
On le sait bien. Mais en revanche, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de... Elle donne la vie, elle ne peut pas être collés à la mort, au sang, au meurtre. Et donc, les hommes n'y vont pas. Et pour la petite histoire, Daniel Zaguri, que j'interview, qui est un psychiatre qui a expertisé un nombre de tueurs pour les tribunaux, me raconte l'histoire de cet homme qui, lui, y est allé et qui décide d'écrire à une dame qui, elle, est en prison parce qu'elle a tué son premier mari et puis son deuxième mari. Et lui dit non, mais moi j'y vais parce qu'elle est formidable, elle est magnifique, elle est merveilleuse. Et cette dame finit par sortir. Et bien, figurez-vous que comme je reprends les termes de Daniel Zaguri, eh bien, la zigouillie en sortant. Donc, ça a refroidi plus d'un.
Il n'est pas celui que vous croyez, c'est le titre du livre de Valérie Benahim qui vient de paraître chez Fayard. Merci Valérie.
Merci Frédéric.
Et bon dimanche.
Merci, oui, bon dimanche à tous. Europe 1.
C'est arrivé demain, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain à 9h. Je vous souhaite une très bonne semaine.